Vous écoutez Terreau Fertile, le balado du lab Nourrir notre monde en Haute-Gaspésie. Dans cet épisode, on vous invite à rencontrer Frédéric Lacoste et Véronique Ouellette, toutes deux impliquées dans le comité citoyen de Sainte-Anne-des-Monts depuis ses débuts. Comme ça a été le cas pour un nombre étonnant de projets implantés dans le cadre du lab, la rareté des terrains s'est avérée le principal obstacle à leur projet de parc nourricier.
Là, en ce moment, on a un terrain, mais à la base, en fait, c'est pas ce terrain-là qu'on avait ciblé. Là. Quand on s'est consulté là, avec le comité de 10 personnes, ben en fait, on avait déjà comme pensé à des terrains accessibles en fait là, pour les personnes du centre-ville de Sainte-Anne-des-Monts, faire en sorte que même s'il y a des personnes qui n'ont pas accès à une cour, à un jardin, quoi que ce soit, ben puissent se déplacer facilement, à pied, en vélo, sans nécessairement utiliser leur voiture, parce qu'en Gaspésie, ben Dieu sait qu'on a souvent besoin de la voiture, là, fait que pour certaines personnes, ben c'est comme un frein en fait à des participations au niveau justement de agricole. Puis on avait ciblé là, quelques terrains qui nous intéressaient éventuellement, mais on n'avait pas encore confirmé là, avec la ville, en fait, si c'était possible. Fait que là, tu sais, nous, on a comme élaboré un peu dans notre tête ce qu'on voudrait faire sur ces terrains-là.
On avait prévu 4 parcelles collectives avec un peu de parcelles individuelles, puis on avait prévu aussi des vivaces, un sentier autour avec une pergola pour faire des événements, puis on voulait faire même un circuit, dans le fond, que le jardin soit inclus dans un circuit on appelait le circuit terre et mer à la base, quelque chose comme ça. Puis, tu sais, ça comprenait un peu la plage quartier pour aller, tu sais, à la pêche. Il y avait... on voulait mettre des fruitiers autour, le plus loin aussi, au niveau du parc multisport, je pense, quelque chose du genre.
Ben oui, puis le terrain du... le parc du Petit Bois.
Ça parc du Petit Bois, oui, on l'incluait, oui, pour la récolte en forêt. Oui, on l'avait inclus dans le circuit. Fait que c'était un peu ça, le premier jet du projet.
Oui. Puis finalement, ben c'est ça, là, on l'a présenté à la ville. Puis finalement, on s'est comme fait refuser là, l'accès au terrain. Fait que là, ben, on a dû se retourner de bord, là, puis choisir un autre terrain. Mais au final, c'est ça, là, c'est que là, vu que nous, on avait proposé un terrain d'emblée, on s'est dit, bon, ben au lieu de continuer à nous-mêmes choisir des terrains avant de demander à la ville, aussi bien demander à la ville pour voir s'ils ont comme une liste de terrains accessibles, disponibles. Fait que finalement, là, on s'est fait proposer le terrain sur la Bellevue, qui est un terrain à la base là, qui est...
c'est un peu plus loin là, à pied. Là,
c'est un petit peu plus loin. Mais tu sais, à vélo, mettons, ça peut quand même bien se faire. Fait que... c'est ça. Puis, tu sais, éventuellement aussi, la ville veut développer, ben je sais pas si ça va se passer effectivement, mais c'est potentiellement dans leur projet, en fait, là, de développer comme un réseau de sentiers cyclables là, le long de la rivière qui vont se rendre à ce terrain-là. Fait que dans le futur, ça peut être une super belle opportunité, là, en fait, là, pour... tu sais, il est quand même bien placé, le terrain, là, tu sais. Fait que c'est ça. T'sais, c'est sûr qu'il est plus petit que la 11e, mais... au final, ça nous a juste comme fait recentrer un peu notre vision sur... c'est ça, là. Tu sais, je pense pas que la vision est dénaturée, en fait. Elle s'est juste comme transformée puis focussée.
C'est
là.
Ça. Ben, dans le fond, on a décidé de commencer un peu plus petit que ce qu'on avait imaginé pour pouvoir ensuite développer selon comment ça va se passer avec les participants. Fait que comme ça, ben on a plus, je pense qu'on a plus de chances de réussite aussi. Là, si on...
C'est ça. Il y a encore les fruitiers, il y a encore potentiellement une idée de sentier, justement là, en collaboration avec la ville. Il y a encore l'idée d'inclure les familles là-dedans, fait que d'avoir comme des espaces, mettons, où les jeunes vont pouvoir s'impliquer dans le jardin ou dans des genres de jeux. Là, où, puis il y a encore la partie de jardin, c'est ça, dans le fond, c'est vraiment le focus sur la partie collective, parce que sur la 11e, c'était beaucoup, en fait, c'était plus des parcelles communautaires, fait qu'individuelles, tu sais, que les personnes, admettons, allaient débourser puis elles-mêmes, individuellement, là, cultiver. Mais là, vu que le terrain est plus petit, ben là, on s'est dit, en fait, vu que ce serait comme difficile d'avoir des grandeurs de parcelles intéressantes, tu sais, pour chaque famille, ben on s'est dit, dans le fond, toute la superficie de culture annuelle serait collectivement cultivée. Fait que... Oh, finalement, on s'est pas mal réapproprié, là, dans le fond, notre vision. Puis je pense qu'on a beaucoup d'attachement là, envers ce que c'est devenu.
Oui, ce que ça va devenir, en tout cas.
Ouais.
oui, c'est vrai.
Dans un territoire aussi grand que le nôtre, il peut sembler un peu paradoxal qu'on manque de terrain pour des projets de jardin collectif. Et ce l'est encore plus quand on pense que l'étendue de notre territoire le rend propice à une autre réalité de plus en plus documentée, celle de déserts alimentaires. Bien sûr, les initiatives portées par les comités citoyens ne suffiront pas à elles seules à régler ce problème pour l'ensemble de la population. Par contre, elles peuvent certainement y contribuer, si l'on se fie à la définition que nous offre Yannick Ouellette, conseiller au développement économique pour la filière bioalimentaire de la MRC de la Haute-Gaspésie.
Le désert alimentaire, le concept principal est qu'on a des gens qui vont être dans un, dans un cercle défini à une telle distance qui fait qu'ils n'ont pas de dépanneur, pas d'épicerie, pas rien, tu sais, ou pas accès à de la nourriture rapidement. C'est le principe de base, je dirais, c'est ça. C'est pas quelque chose de clairement défini, mais c'est quelque chose qui existe vraiment, on le voit. On en a quelques espaces comme ça. Et puis, notre travail, en tout cas, mon travail à moi dans le bioalimentaire, c'est de travailler avec le détail aussi. T'sais. Donc, les épiceries, les dépanneurs, je fais tout ça présentement. Parce qu'on se dit, si quelqu'un vient de reprendre une épicerie, ça va bien ou ça va pas bien, c'est quoi les pistes qu'on va chercher pour que ça soit pérenne, que les gens, chacun dans leur village, puissent avoir quelque chose. T'sais. Puis, l'autonomie alimentaire... comment je pourrais dire? Moi, je pense qu'il y a plusieurs manières de le voir aussi, puis elles sont toutes bonnes. Nourrir notre monde en tant qu'organisme, on parle du nourricier, on parle de tout ce qui va être accès facilement à la nourriture, et pas la même vision forcément que la MRC va avoir, que la Chambre de commerce aurait, que, tu sais, tout le monde a sa manière de voir la chose, là. Mais l'autonomie alimentaire, ce qui est important, c'est que, moi, je pense, c'est que s'il arrive quelque chose... Comment on va faire pour s'organiser nous autres mêmes? Moi, je suis peut-être un peu romancé, mais dans le sens que il se peut à un moment donné que la route soit coupée. Puis des fois, je fais paniquer un peu le monde, il me dit, Yannick, tu trouves pas t'es un peu démagogue? Non, mais c'est pas ça la question. La question, c'est si on le réfléchit comme ça, c'est coupé. Bon, on fait quoi? On mange comment? Pour moi, l'autonomie alimentaire, c'est peut-être un peu extrême, mais je me dis, ultimement, c'est ça aussi. Fait que je crois pas que dans un court délai, on serait capable d'être autonome. Mais je suis sûr qu'avec une bonne organisation, une bonne structure, puis une bonne concertation, puis une bonne mutualisation des services, puis de la gouvernance, je vais le dire comme ça aussi. Pour moi, la gouvernance, c'est les élus, c'est la gouvernance des organismes, tu sais, les partagences, la récup alimentaire, tout ça, là. Il y a beaucoup de travail qui est fait en amont. Je m'en rends compte quand je suis assis ici. Là, je vois bien tous les organismes qui existent, tous les comités qui existent. Quand tout ça va être bien rodé, là on parle d'autonomie alimentaire aussi. Ça fait que comment on s'organise si on arrive à un cas extrême comme celui-là? Fait que, pour moi, le lab, il est très innovant dans le fait qu'on revient aux sources. Hein? Fait qu'on va vers les caveaux, mais des caveaux au goût du jour. Tu sais, toutes les... Tu sais, les serres qui ont été faites localement, tu sais, je veux dire, la plupart des gens, il y en a qui n'ont jamais fait d'agriculture, tu sais. Ils commencent dans une serre, ils commencent dans les meilleures conditions, tu sais. Ils ne sont pas obligés, au pic, au grob, de défricher une terre, tu sais. Quelque chose qui est tout près, le carré est prêt, la terre est dedans, tu t'installes, tu commences à cultiver dans les meilleures conditions, tu sais. Fait que ce que je trouve d'innovant, c'est ça, dans le lab, c'est d'avoir été... premièrement, d'aller vers le citoyen, chose qu'on n'est pas habitué de voir aussi. Hein. Des fois, on va aller directement avec notre idée, ça va être ça, puis c'est comme ça. Ce que je trouve d'intéressant, c'est que je pense que l'idée de base était bonne. Puis quand on est arrivé vers le citoyen nous a dit vraiment ce qu'il voulait, puis c'était peut-être pas ce qu'on pensait qu'on allait faire. T'sais. Bon, bien ça, c'est déjà innovant d'avoir été à la base. Puis on va avoir accès, avec le lab, tout le monde, à plein de techniques, puis de moyens pour être autonome. Puis à notre vitesse, tu es vraiment craqué, que tu veux faire ton caveau, tes jardins, etc., tant mieux. Mais si tu veux avoir juste une petite boîte à fleurs, tu peux aussi. Fait qu'on va voir les outils qu'il faut. Oui, ça existe ailleurs, puis YouTube peut tout nous dire ça, mais ça ne nous ressemble pas, nous autres. Fait que là, c'est nous autres, on se parle entre nous autres, là, tu sais. Puis en utilisant une nouvelle technologie, c'est innovant, tout ça. L'agriculture a toujours un modèle conservateur, puis c'est comme ça. Puis le lab a fait la preuve du contraire. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Puis je pense que le lab, c'est seulement le début de quelque chose. C'est un gros quelque chose, mais c'est seulement le début de quelque chose. Ce qui m'intéresse vraiment, en même temps qui m'inquiète vraiment, mais je suis très honnête quand je le dis, mais je sais qu'on va y arriver, on y arrive toujours. C'est comment toute cette énergie-là, on va le rendre pérenne. C'est comment on va l'entretenir, comment on va s'en occuper, comment on va motiver les gens à poursuivre les jardins, comment on va encourager la génération qui suit à prendre la relève de ce qu'on vient de faire. Ça, c'est ça mon questionnement, pour vrai. Puis c'est ça qui m'intéresse. Puis c'est là-dessus que j'ai envie de travailler, moi.
Au moment d'accueillir les participantes et participants sur le terrain du parc nourricier, le comité citoyen de Sainte-Anne-des-Monts doit lui aussi réfléchir à une façon de faire les choses en marge des modèles établis pour le bon usage et la gestion du terrain.
On le voit principalement, je pense, comme en mode autogestion, là, dans le sens où il n'y aura pas un comité avec des personnes fixes qui vont gérer toutes les personnes, tu sais. Je pense que ça va vraiment être un comité ouvert où tous les participants, en fait, vont avoir comme une voix puis vont participer aux décisions, là. C'est vraiment... c'est une co-création, en fait, de tous les participants, là. Fait que, c'est comme nous, on a porté le projet pendant un bout, tu sais, on l'a développé. Mais le comité, dans le fond, comité de gestion, ça va être rendu de tous les participants là, qui vont être là. Là, ce sera plus juste nous cinq, là, pour faire en sorte que ça réponde aux besoins de tout le monde, pour vrai.
Puis pour ne pas s'essouffler aussi. Parce que ça fait quand même 2 ans qu'on travaille sur, là-dessus. Puis il y a eu des baisses de motivation à travers tout ça.
On a eu des périodes d'essoufflement.
On l'acceptait, c'est ça qui est beau, parce que chacun, on est capable de comprendre que là, okay, là tu n'as pas de temps donné, tu n'as pas de motivation. Ben bon, moi, je vais prendre ça un peu plus. Puis après ça, ben c'est ça. Ça, c'est beau, là, ce qui s'est passé à travers tout ça. Mais là, on espère que les participants prennent un peu le projet en charge pour nous aider.
Ben, tu sais, c'est sûr que là, pour la première année, mettons, ça va vraiment être une année, en fait, pour intégrer les nouvelles personnes, là. Fait que, tu sais, d'un certain côté, le but, ça va être aussi de transférer cette information-là, tu sais.
Tranquillement, ouais.
Tranquillement, là, sans pour autant dire que, genre, je la transfère parce que, là, moi, dans un an, je veux plus participer, là, tu sais, mais justement, par souci de pérennité, là, tu sais, que chaque personne qui va être là, ben, ils vont comprendre un peu c'est quoi les dynamiques, tu sais, de, justement, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi l'historique, c'est quoi, tu sais, dans le fond. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que le projet ne repose pas juste sur une personne, tu sais, ou deux personnes, là. T'sais, si, admettons, nous, un moment donné, on n'est plus là, ben il faut pas que le projet tombe à l'eau. Il faut que les personnes qui se sont joints ben, comprennent, dans le fond, comment ça marche puis comment faire pour que ça continue. Là. Fait que le but, c'est que le comité de gestion devienne comme une entité qui existe, peu importe, dans le fond, qui est là. T'sais.
Ouais, on a eu l'offre de se joindre au CADEC pour qu'ils nous aident aussi là, éventuellement. Là. Fait que on n'a pas dit oui ou non, mais dans le futur, ce serait une possibilité là, de joindre un membre du comité citoyen du jardin de citoyens de Sainte-Anne-des-Monts à la CADEC pour que ce soit un peu eux qui puissent continuer la gestion financière de ce projet-là, peut-être. Là.
Ouais.
C'est une possibilité.
Pour Yannick Ouellette, la pérennisation des projets d'autonomie alimentaire passe par une synergie entre les différents acteurs du milieu. Il serait pertinent et intéressant d'adopter un modèle de gestion plus circulaire.
On a tendance à penser toujours en pyramide, puis moi, je pense plus en cercle. Fait que c'est pas parce que tu es au centre du cercle que tu es plus important, c'est juste qu'on t'a positionné dans le cercle, parce que si on te met au centre, c'est probablement parce que tu es relié à beaucoup plus de personnes. Quand tu es sur le bord du rond, là, c'est parce que tu es en contact avec celui à droite, celui à gauche, celui collé sur toi. Mais quand tu es au centre, c'est parce que là, tu as un tas de monde. T'sais. Puis c'est là que je vais nourrir notre monde. Nourrir notre monde se retrouve au centre parce qu'il touche à toutes les dimensions. Dans le citoyen, puis aussi au niveau des agriculteurs, parce qu'il va forcément avoir des liens dans la transformation aussi. Je pense à la récupération, les anges jardins, tout ça. C'est tout des à côté du domaine. C'est tout ce qui est underground qu'on ne voit pas vraiment. Puis c'est là que ça se passe, l'autonomie alimentaire. T'sais. Je te donne un exemple. Dans l'histoire de l'agriculture en Haute-Gaspésie, là, c'est arrivé une fois, mais ça fait très, très, très longtemps. Là. Il n'y a jamais eu d'agronome à domicile ici. Puis à partir de la mi-mai, j'ai une stagiaire de l'Université McGill qui s'en vient ici en tant que stagiaire pour l'agronome. Fait que ça, pour moi, c'est une autre réussite. C'est quelque chose qu'on doit mettre parce qu'elle est intéressée par quoi? Elle est intéressée par l'effervescence de la Haute-Gaspésie en agroalimentaire. C'était même pas pensable il y a 5 ans, il y a 10 ans de ça. Il y a personne qui serait venu ici pour ça. Là. Puis là, elle est venue. On ne l'a pas été à la chercher. Elle est venue d'elle-même. Bien, pourquoi? Bien, parce que le lab, Nourrir notre monde, là, l'organisation, Coop du Cap, tout ça, puis toutes l'effervescence, les autres agriculteurs, là, les Renfous, la ferme du Phare, RAC, Taureau Bélier, tous ces gens-là, là, ils ont un effet là-dessus. Quand les gens qui sont intéressés par l'agroalimentaire tapent Haute-Gaspésie, puis ils voient tout ce qu'on a, tout est à faire ici, là. Exemple, le comité des marchés publics qui est en train de se créer. Là, on a une table des maraîchers qui s'est créée. Je vois dans un court laps de temps une table de restauration, probablement une table des pêches, une table de transformation dans les deux prochaines années. Ça, c'est toutes des tables qui vont s'installer pour la concertation dans le domaine peut-être plus politique. Mais à ça, tout le monde qui tourne autour, les Nourrir notre monde, les coopératives, tout le monde va graviter autour de ça. La MRC va jouer son rôle, pas au-dessus, autour, tu sais. Fait que, tu sais, la MRC, son rôle à elle, c'est de pas contrôler. C'est de chapeauter ça. Elle a un rôle de parapluie, puis en dessous de ça, bien, il y a différentes dimensions. Hein. Il y a le développement économique, il y a l'agroalimentaire, il y a la culture, il y a le tourisme. Toutes des choses sont accrochées. Mais en dessous de l'agroalimentaire, il y a toutes les autres choses qui gravitent, qui s'attachent en dessous. La MRC n'a pas de contrôle, mais à mon avis, elle doit être au courant de tout ce qui se passe pour que quand il arrive un nouvel arrivant, qu'on puisse dire, ouais, mais moi, un jardin public, c'est, ah ben, pop, on le met en contact avec Nourrir notre monde qui va lui dire les différents jardins publics où il va être, tu sais. C'est comme ça que je le vois. C'est pas une question de contrôler, mais c'est une question d'être porteur, puis que l'information se diffuse facilement. Puis qu'après ça, on remonte vers en haut quand on a besoin de quelque chose. C'est pour ça que je trouve que c'est important de Nourrir notre monde. Parce que c'est un parapluie, lui aussi, tu sais. En dessous du gros parapluie de la MRC, il y a plein de petits parapluies qui peuvent s'installer. Pour que le citoyen dise, ben moi, j'irais me loger plus sous ce parapluie-là, parfait, vas-y, puis il y a des comités. Pour ne pas multiplier les CA, etc. T'sais, on n'a pas besoin, parce qu'à un moment donné, c'est toujours les mêmes bénévoles qui se retrouvent partout. Là. Moi, j'ai un bon exemple, là. J'en ai fait des dizaines de CA. Mais ça peut être une autre manière de faire les choses. Un comité autonome qui travaille sur son affaire, mais il s'accroche sous une de nos organisations. Il y a beaucoup de choses à établir. Même si le lab a fait énormément de travail là, dans les 3 ans, il y a encore plein de zones, puis je pense, puis, là, puis faut, ça, je vais le dire, là, parce que ça m'a été dit, puis je trouve ça très sage, puis c'est Marie-Ève, Paquette, Mélodie, puis Nicolas, puis je trouve ça très sage de le dire, c'est un laboratoire. Hein? C'est un laboratoire, puis quand on fait de la recherche, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Fait que moi, je vois la Haute-Gaspésie comme un centre de recherche dans le développement agroalimentaire grâce au lab. Maintenant, capitalisons là-dessus, là, qu'il faut s'arrêter, se centrer, se parler. Fait que c'est ça. On a encore du travail.
Dans le tout dernier épisode de notre série, on vous invite du côté de Rivière-à-Claude, où une coopérative locale a su jumeler ses intérêts à un projet citoyen. Une formule qui semble avantager toutes les parties prenantes. Retrouvez-nous pour terminer cette réflexion fertile et collective. Terreau fertile est un balado produit par Nourrir notre monde Haute-Gaspésie. Réalisation, enregistrement et montage, Tram Audio. Aide à la réalisation, Rosie Roque-Lallier. Musique, Claude Pelgag. Narration, Valérie Bertrand-Lemay.